Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end. Et ce week-end, l'actu est très très forte. Comme tous les dimanches, Maryse et Bon GP, notre membre de la Dream Team est là. Comment ça va, Maryse?
Salut, salut. Tu vas bien?
Ouais, très bien. Et toi? Au programme ce soir.
T'as pas la référence, je vois Eric.
Qui n'a pas cette référence? Les nuls. Inconnus, évidemment. Au programme ce soir du tennis, Novak Djokovic à quelques heures d'impossible grand chelem. Le Serbe dispute une finale du US Open historique ce soir à partir de 22h sur RMC contre Daniil Medvedev. On sera en direct de New York dans quelques instants et la rédac tennis d'RMC est ici. Formule 1, le duel Verstappen-Hamilton de plus en plus chaud. Les deux pilotes se sont rentrés dedans cet après-midi à Monza. La rivalité monte encore d'un cran. Débrief et projection avec Jean-Luc Roy dans 20 minutes. Rugby, les rouges et noirs contre eux. Les rouges et noirs, Toulouse reçoit Toulon ce soir. Présentation depuis Ernest Vallon dans une demi-heure. Et à 19h45, l'invité exceptionnel du RMC Sport Show, Tony Yoka.
Ça, c'est pour tous les lovers.
R. Kelly.
Quel lancement.
Eh oui, the world's greatest. Alors, c'est pas pour Tony Yoka. Peut-être un jour, on espère. Mais ce 12 septembre 2021 deviendra peut-être historique si Novak Djokovic remporte la finale de l'US Open ce soir contre Medvedev. Même sa victime en demi-finale, l'Allemand Zverev est content de voir ça.
It's great for the sport.
Je pense que c'est génial pour le sport. Personne ne pensait que quelqu'un pourrait réitérer l'exploit de Rod Laver. De voir qu'il aura cette opportunité dimanche, c'est super et je crois qu'il va le faire. Il est en train de battre tous les records qui existent. Si vous regardez les statistiques, il est le plus grand de tous les temps. Personne n'est à sa hauteur. Il a le record de semaine passée en tant que numéro 1 mondial. Il a remporté le plus grand nombre de Masters 1000. Il détiendra probablement le plus grand nombre de majeurs. Et il a la possibilité de gagner les 4 dans la même année. Comment pouvez-vous rivaliser avec ça?
La une du RMC Sport Show.
À mes côtés, Maryse Evan GP, donc, et la rédac tennis d'RMC, représentée par la voix du tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Anthony Resch est là également. Salut Anthony.
Bonsoir à tous.
Messieurs, Anthony. Madame, est-ce que Novak Djokovic devient ce soir, sans conteste, le GOAT le plus grand de tous les temps s'il remporte sa finale contre Daniil Medvedev? Eric.
Oui, probablement, mais j'ai écouté les grandes gueules ce matin. Stephen Brun, il a pas tort. Imaginez Nadal qui regagne deux Roland Garros, il repasserait devant. Alors, il n'y aurait pas le grand chelem calendaire au milieu, mais le baromètre, c'est quand même le nombre de titres de grand chelem en fin de carrière. Donc, il repasserait devant, mais
c'est condition nécessaire, c'est pas suffisant. C'est un titre qui est fluctuant, hein, The GOAT. T'as le droit de devenir la chèvre du moment, au sens positif du terme, évidemment, et de te voir dépasser par une autre chèvre.
Intéressant ce que tu dis, Eric. Tu mets en compte le nombre de grands chelems. Pour l'instant, on rappelle qu'ils sont à 20. Djokovic 20, Nadal 20, Federer 20. Mais s'il s'impose ce soir, il passerait à 21. Mais ce grand chelem qui n'a pas été réalisé depuis Rod Laver en 69, Anthony,
c'est surtout ça.
Ça compte, c'est mais ça. C'est ça. Mais c'est Eric semble dire que ça compte pas plus que ça. C'est quand même exceptionnel, cette performance.
L'impact dans les statistiques et dans l'histoire du tennis est tel que effectivement, ni Roger Federer ni Rafael Nadal ne l'ont réussi, et ça fera une différence dans l'histoire du tennis si Novak Djokovic s'impose ce soir face à Daniil Medvedev. Et au-delà de ça, pour prolonger ce que disait Eric, Novak Djokovic, contrairement à Roger Federer et Rafael Nadal, a quand même un potentiel de victoire supplémentaire en Grand Chelem beaucoup plus important. Mmh. Il est évident qu'on le voit, le physique est en train de dérailler totalement du côté de Federer et Nadal. Ce n'est pas du tout le cas quand même du côté de Novak Djokovic. Donc on imagine bien qu'il y aura un 22, un 23e, peut-être un
24e. Et puis de toute façon, si on se met à écouter Stephen Brun qui bade complètement Roger Federer, on sait très bien qu'il ne va pas être tout à fait crédible sur sa critique. Je crois que
ce soir,
a été
dans
dit.
Dans l'objectivité.
On est dans la jeunesse, enfin la jeunesse relative, hein, parce qu'il n'est pas tout jeune non
35,
plus.
Hein.
Mais en tout cas, il a encore quelques années d'avance et surtout une fraîcheur d'avance parce que Rafael Nadal n'est pas non plus si vieux que ça, mais il est quand même beaucoup plus abîmé. Il a déjà eu beaucoup de stops, de beaucoup d'arrêts au stand. Donc on peut supposer que Novak Djokovic n'en est pas encore à sa dernière victoire. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence, s'il le fait, bien évidemment, c'est ce grand chelem. C'est énorme. C'est le globe, c'est le gros globe de cristal, quoi. C'est un truc fantastique.
34 ans, Djokovic, ouais. 35 ans pour Nadal. Eric.
Ce qui est paradoxal, c'est si jamais Djoko réalise ce truc insensé, quand on regarde l'état de santé actuel de Federer et Nadal, ils sont tous les deux en béquille. Même si on n'a pas la confirmation que Federer a été opéré, on a eu il y a quelques jours la confirmation que Rafael a reçu un traitement pour son pied gauche. Il est en béquille. Donc les deux sont clopin-clopin. Quoi.
C'est
une photographie assez incroyable de l'histoire du jeu.
Alors, il y a la finale ce soir contre Medvedev et l'aspect statistique. S'il gagne, il passe devant Nadal et Federer d'un point de vue grand chelem avec un d'avance. Il réalise ce grand chelem sur l'année, victorieux des quatre tournois du grand chelem à la suite, ce qui n'a pas été réalisé depuis Rod Laver en 1969. Mais il y a quand même une impression, et je vais commencer par toi, Marie, sur cette question, de même s'il fait ça ce soir, on a l'impression qu'il y a toujours un déficit de popularité. Que non, Djokovic sera toujours, de ce point de vue-là, derrière Federer et Nadal.
Alors déjà, je pense qu'on voit depuis notre fenêtre, même s'il a été sifflé aussi aux États-Unis, on en a déjà beaucoup parlé. Moi, personnellement, je le bade. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui ne l'aiment pas et qui ne l'apprécient pas pour sa personnalité un peu dérangeante, un peu géniarde par moments ou un peu grognon à d'autres moments. Moi, je me souviens simplement que pratiquement tous les grands champions ont eu des périodes où ils n'étaient pas si sympathiques que ça et où ils ont gagné la sympathie du public. Donc, tu me dirais, il est un peu tard aussi pour qu'il la gagne, la sympathie, mais il est qui il est, je crois qu'il ne triche pas avec lui-même. Moi, c'est un personnage que j'admire par son hygiène de vie, par sa constance, par son jeu aussi, que je trouve, moi j'adore le voir jouer, donc le reste, ça m'intéresse peu, je trouve. Après, on est comme ça, on aime détester ses héros, quelque part.
Mais pourquoi lui, Eric et Anthony?
Parce qu'il a eu, à un moment donné, ça va très très vite dans le sport, il suffit d'un mauvais geste, il suffit d'un comportement un tout petit peu déplacé, qui va marquer plus qu'un autre ou qui va être un peu plus médiatisé, et ça peut vous coller au basque jusqu'à la fin de votre carrière. Hein.
Mais c'est une impression ou pas, Eric,
dans la réalité, les gens, ceux qui le connaissent de près, disent que c'est un type formidable et un type sympathique. Eric, ceux qui le connaissent de près. Hein.
Impression ou pas de voir qu'il a un déficit de popularité.
Il a déboulé sur le circuit avec ce qui a pu être pris comme un peu d'arrogance. C'est vrai qu'il singeait un peu Nadal, il singeait Sharapova.
Oui, mais à l'époque, c'était des caricatures, c'était pas pour les singer, c'était pour s'amuser. Et pour faire rire
mais
le public.
C'était mal vécu par le public. Après, il y a eu des périodes où il a été arrogant. C'est vrai, il faut le reconnaître parce qu'il voulait bousculer tout le monde et que c'était mal vu aussi par les champions eux-mêmes, par Federer et Nadal qui sont pas proches de lui. Autant Nadal et Federer pourraient passer des vacances ensemble. C'est hors de question que Djokovic partage.
Oh,
si, non, c'est sûr et certain. Oui.
Il y avait eu des déclarations.
Il y en a un des deux qui s'ennuierait, je pense.
Il s'apprécie pas et c'est vrai qu'il c'était un peu comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Il est venu dégommer tout ça et il y avait une sorte de bon ordonnancement du circuit. Et là, voilà, il y a ce jeune Serbe qui est venu avec ses valeurs, avec son jeu, avec peut-être son poil d'arrogance qui est en train de tout renverser. Mais là, je pense que ce soir, s'il gagne, il va mettre tout le monde d'accord parce qu'il y a aussi la manière dont il peut gagner. Le match en 5-7 contre
Zverev. C'est pas donné ce match.
La manière dont il a battu Zverev en 5-7, avec notamment des points époustouflants, un rallye de 53 coups de raquette, où on voit les deux mecs qui en peuvent plus. Donc, il dégage quand même quelque chose.
Il est 19h10.
Je voulais juste rajouter une petite chose. Si on prend une autre GOAT qui est Serena Williams, par exemple. Elle n'a jamais fait l'unanimité. Certaines personnes la trouvent admirable, fantastique, exemplaire dans ses combats de femmes, dans ses combats dans la vie. D'autres la trouvent extrêmement arrogante et sortent aussi ses casseroles parce qu'elle en a aussi. Moi, je me souviens, elle était au tout début de sa carrière d'un show télévisé qu'elle avait fait où elle singeait justement, elle refaisait Amélie Mauresmo. Et pas de façon sympathique du tout, puisqu'elle l'imitait en tant que mec. Et ça lui a collé au basque aussi pendant un moment. Et je pense que de toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité dans une carrière.
Djokovic contre Medvedev, la finale de l'US Open, c'est dans 3 heures. L'aspect sportif, on en parle dans un instant avec Anthony Reich, avec Eric Salio, Marie Zévan GP. Mais direction New York, tout de suite, nous retrouvons sur place notre correspondante aux États-Unis. Bonsoir, Marie Gentric. Marie, alors bonsoir pour nous, bonjour pour toi. Il doit être à peu près midi, c'est ça, toujours 7 heures d'écart?
13 heures.
Marie, est-ce qu'on parle beaucoup de cette finale aux États-Unis?
Ah oui, on en parle beaucoup et d'ailleurs la presse américaine, on peut le dire, elle est vraiment optimiste hein, concernant une victoire de Djokovic. J'ai écouté à l'instant là les experts de la chaîne ESPN, c'est une grande chaîne de sport américaine, et ils sont quasiment unanimes hein, pour dire que Djokovic va sans doute l'emporter d'ici quelques heures. Alors si on regarde même la presse un petit peu plus classique qui ne parle pas énormément de sport d'habitude, par exemple le prestigieux journal du New York Times, lui aussi il a plusieurs articles sur le sujet où il décrit notamment Djokovic comme l'homme de fer et puis il souligne vraiment hein, sa force mentale, sa résilience et le mental mental de Djokovic, c'est vraiment ce qui revient beaucoup dans la presse américaine. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que aussi confiante soit-elle, il y a cette idée qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir gagné, si je puis dire, parce qu'il y a ce souvenir douloureux de Serena Williams en 2015. Serena Williams qui avait failli remporter un grand chelem calendaire, ce qui n'avait pas été fait pour les femmes depuis 1988, mais qui avait perdu en demi-finale de l'US Open.
Et est-ce que les opinions des Américains ont changé au fil de la semaine? Parce qu'en début de semaine, ça a été quand même un peu dur pour lui, avec les sifflets qu'il attendait sur les courts.
Ouais, moi j'ai l'impression que oui, ça a changé, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments qui étaient difficiles en début de semaine pour Djokovic. C'est vrai qu'on l'a vu regarder le public, limite implorer le public pour demander davantage d'affection, davantage de soutien. Mais moi, j'étais au stade et je peux vous dire que j'ai parlé avec plus d'une dizaine d'Américains, certains qui sont venus de Floride, du Colorado, de Boston. Donc c'est une sacrée trotte, juste pour le voir jouer, lui Djokovic, et qui m'ont expliqué à quel point ils l'adoraient. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
Je pense que c'est un super joueur. Je pense qu'il a de grosses chances de gagner. Et nous, on espère qu'il va gagner. Il a une très bonne technique, il a de la force, il est agressif dans son jeu. C'est juste l'un des meilleurs.
C'est ta dernière chance. Donne tout ce que tu as. N'hésite pas, vas-y, fonce. C'est un moment historique, mec. Vas-y, donne tout, Djokovic.
Donc voilà, du soutien, il en a, Djokovic. Peut-être que ses supporters, ce ne sont pas les plus bruyants. Peut-être que ses fans, ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit. Mais je peux vous dire, il en a à l'US Open.
Merci beaucoup Marie Gentric, en direct de New York pour RMC. Et bonne finale à toi. Est-ce que tu seras encore au stade pour cette finale, Marie?
Oui. Oui, j'y serai. Wow.
Moment d'histoire. Jalousie dans ce studio. À plus tard, Marie. À 19h13, vous êtes sur RMC. Le RMC Sport Show. Djokovic qui est en finale contre Medvedev. La route a été semée d'embûches, à commencer par la demi-finale. On entendait Zverev en début d'émission. Victoire en 5-7 de Novak Djokovic. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette victoire difficile? Est-ce qu'il faut retenir qu'en 5-7, en fait, il est imbattable et que mentalement, il est là et que du coup, il est prêt pour décrocher ce grand chelem calendaire?
Bah, c'est sûr que dès qu'on se met dans un format de 5-7, Novak Djokovic est quasi imbattable. Il peut avoir des trous d'air, il a quasiment jamais connu un parcours en grand chelem comme celui-là où il a perdu à chaque fois au minimum un set à chaque match et à chaque tour, mais dans les moments importants de chaque rencontre, il a su serrer le jeu, il a su élever le niveau, même si ça n'a pas été le Djokovic parfait là en demi-finale. Par grande séquence, on a vu du très 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 grand Djokovic.
Gros match. Ça a été une sacrée bagarre. Parce que pour qu'il y ait un bon match, il faut qu'il y ait un couple qui soit parfait, quoi. Alors, et là, c'était le cas.
Le Djoko technique qu'on connaît, le Djoko mental, il nous a un peu peur. Il s'est fait peur cet été. On l'a vu craquer comme rarement aux Jeux Olympiques. Sa défaite en demi-finale contre Zverev, ensuite son abandon alors qu'il était en course pour la médaille avec sa compatriote. Est-ce que sur ce tournoi, Eric, il te semble avoir répondu aux questions mentales et avoir effacé les doutes qu'on avait?
Je pense qu'il avait abordé les Jeux Olympiques d'une manière totalement différente. Il voulait kiffer, et Marion Bartoli l'a rappelé justement dans Les Grandes Gueules, il était ouvert à tout le monde, quoi. Il a signé un nombre incalculable d'autographes. Il n'était pas dans une préparation grand chelem, quoi. Là, à New York, c'est totalement différent. On sait qu'il réside non pas dans Manhattan, mais dans le New Jersey, dans une propriété où il y a beaucoup de verre, dans un parc. Donc, il a sa petite équipe réduite autour de lui. Il a peut-être son caisson hyperbar. C'est pas impossible. Donc, tout est minuté, tout est programmé. Il peut rien lui arriver de mal, sauf peut-être un super adversaire,
c'est la seule donnée qu'on ne maîtrise jamais, c'est-à-dire l'adversaire qui monte son niveau à un moment donné. Mais je pense que les Jeux Olympiques, justement cet échec lui a servi de leçon, parce que comme tu le disais, il voulait kiffer mais il voulait gagner. Et de se mettre dans cette ambiance des Jeux qu'il a vraiment pour le coup apprécié jusqu'au bout, il s'est rendu compte que ça ne correspond pas à son caractère. C'est-à-dire que c'est dur d'ailleurs, parce que quand il se dit maintenant je suis à un âge où je peux m'éclater, ça ne lui réussit pas pour gagner. Certains champions ont besoin au contraire de la décontraction, du fait d'être entouré, d'être dans une ambiance un peu fun entre guillemets, pour réussir, pour performer.
Lui
il a besoin de se mettre à mal, il a besoin de s'isoler, il a besoin de se faire dans un camp de travail, un peu comme font les boxeurs avant des grands combats, comme faisait notamment Mohamed Ali, qui se mettait en des camps de concentration. C'est un lapsus qui est affreux, mais vous avez bien compris de quelle concentration je parlais.
Évidemment. En tout cas, Novak Djokovic, lui, est bien conscient de l'importance de ce match, puisqu'on est sur l'aspect mental. Il en parlait juste après sa victoire contre Alexander Zverev en demi.
Je reste simple, je sais qu'on veut parler de l'histoire et je sais ce qu'il y a en jeu, mais j'essaie de rester concentré sur ce qui marche pour moi. Je vais aborder ce match comme si c'était le dernier, c'est peut-être le match le plus important de ma carrière, ou peut-être pas, mais c'est le plus important de cette année, ça c'est sûr. Ce sera une nouvelle bataille contre Medvedev qui est vraiment en forme. Je sais à quoi m'attendre, il a déjà fait deux finales de majeur, il a de l'expérience désormais. Mais de mon côté, je vais donner tout ce que j'ai pour gagner.
Alors l'adversaire justement à partir de 22h, Daniil Medvedev. Djokovic est numéro 1 mondial, Medvedev c'est le numéro 2, 5 victoires à 3 dans le face-à-face entre les deux hommes en faveur du Serbe. Est-ce que Medvedev c'est le plus dangereux pour Djokovic? Est-ce que s'il y en a un qui peut le taper, c'est Medvedev?
Je crois que sur cette surface, oui, Daniil Medvedev a les armes pour l'embêter, le battre, ça sera autre chose, mais c'est sûr que ça sera un énorme combat. Et Daniil Medvedev aime être celui qui est tout seul de l'autre côté, face à tout le monde, face à l'histoire.
Ah ouais.
L'outsider ou celui qu'on n'attend pas.
Là, c'est pas un outsider, c'est un putain de challenger.
Parce qu'il sait que le poids de l'histoire de cette finale, il l'a dit d'ailleurs après sa qualification pour cette finale, et il aimera justement ce côté. Si je peux vraiment
l'empêcher
de le faire, je vais le faire.
Oh bah ça, on se doute bien qu'il va pas lui donner.
Et ça, c'est très caractéristique de Daniil Medvedev. Et en plus, il a les armes pour le perturber.
Il a les armes, mais ils sont affrontés les deux en finale de Grand Chelem. C'était la finale de l'Open d'Australie en janvier, février peut-être, il y a 8 mois. Il a pris une raclée, Medvedev.
Ouais, ça avait été assez décevant de la part de Medvedev, mais je pense qu'il aura tiré les leçons de cet échec. Il faut savoir quand même qu'à Melbourne, c'est le boss, Djokovic, il adore l'atmosphère de la Rod Laver Arena, il adore tout ce qu'il y a de toute la ville. New York, il est pas aussi fringant, son palmarès n'est pas aussi étoffé, il a connu quelques sales défaites, notamment une en finale contre Wawrinka. Parfois le climat est poisseux et ça lui convient pas forcément. Moi, la grande question que j'ai aussi, c'est quand il va rentrer sur le court et qu'il va croiser le regard de Rod Laver qui sera dans les tribunes, prévu, le tapis rouge, si ça gagne, évidemment, Rod Laver lui remettra le trophée, il y aura une sorte de passation de pouvoir. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça, émotionnellement parlant?
Tu regardes pas?
Je peux pas regarder.
En tout cas, c'est une finale pour l'histoire qui débutera à 22h, la finale de l'US Open. Et dispositif exceptionnel sur RMC ce soir, puisqu'Eric, tu seras au commentaire de cette finale.
À quelle heure cette nuit?
À partir de 22h.
Ça va, tout le monde peut regarder.
Et jusqu'au bout du match, hein. Même écouter à la radio, gratuit, vous mettez RMC, la finale sur RMC. Eric, salut au commentaire jusqu'au bout, si ça termine à 3h45 du mat.
Il a fait des gargarismes et des vocalises toute la journée.
Je pense que le duo Riolo-Salio, à partir du 2 du matin, ça peut être quelque chose.
Oui,
Daniel est un grand expert de tennis. Nous avons couvert ensemble l'US Open 2001, il y a 20 ans. À 12h près, on était bloqué à New York avant l'explosion des tours jumelles. Donc, Daniel et moi, on a des souvenirs faramineux de l'Italie.
Je pense que vous pourrez nous en raconter quelques-uns. Rendez-vous
à partir
de 22h. 19h19, le tennis, toujours dans ce RMC Sport Show avec Eric Salio, Anthony Reich, la rédac tennis d'RMC, là, Maryse Vangépé, notre membre de la Dream Team. On parle du US Open, peut-être historique. En fait, il est déjà historique, cet US Open, parce que hier, Emma Raducanu a remporté le tournoi chez les femmes. En fait, Anthony, c'est une quasi-inconnue sortie des qualifs qui a remporté son premier grand chelem à 18 ans.
Ouais, 1m75, une droitière britannique, née au Canada, d'un père roumain et d'une maman chinoise. Et elle arrivait à 2 ans en Angleterre. Petite, elle a d'abord fait de la motocross et du tennis. Et après, s'est recentrée vers le court et la raquette. Preuve que ça a plutôt bien fonctionné. Tous ceux qui l'ont côtoyée décrivent une très grande travailleuse, très disciplinée. Alors, avant l'US Open, elle n'avait disputé que 5 petits matchs sur le circuit principal. Elle avait commencé son tournoi il y a 3 semaines avec les qualifications, dont l'anonymat du court 11. 10 victoires de rang s'en suivent. Et évidemment, ce sacre magnifique. Un parcours exceptionnel, une performance historique qui ne semble pas la perturber.
Après le match, je me suis juste douchée, la même routine que d'habitude. Je ne pense même pas à mon retour à la maison, je n'ai aucune idée de quand je vais rentrer. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire demain. J'essaie juste de profiter du moment présent, de tout apprécier. Pour l'instant, je ne me soucie de rien, je profite, j'aime la vie.
Emma Raducanu est quand même devenue la première joueuse de l'histoire à remporter un titre de Grand Chelem après être sortie des qualifications. Et pourtant, il y a 2 mois encore, elle était sur les bancs de l'école dans la section sport-études de la fédération anglaise et passait ses examens avant une belle percée à Wimbledon grâce à une invitation et un 8e de finale qu'elle a abandonné, notamment à cause de la pression, comme quoi en 2 mois, beaucoup de choses ont changé. Après son sacre, Emma Raducanu a même été félicitée par la reine d'Angleterre en personne. Harry Bushnell, ancien entraîneur l'entraîneur de la Britannique, a suivi le match dans son ancien club justement en Angleterre.
Le fait de se lever tôt tous les matins, de faire tous les déplacements dans le pays, les conversations difficiles, le fait d'être un entraîneur de tennis parfois dur, le conditionnement, tout ça c'est difficile. Et avec des moments comme celui-ci, tout prend sens. Ça en valait vraiment la peine.
Raducanu était 361e mondial il y a 3 mois, 150e au coup d'envoi de l'US Open. Demain, elle sera 23e mondiale.
Ah oui, ça fait une petite progression quand même. Hein.
C'est magnifique, l'histoire de mort.
C'est un petit brin de muguet, cette jeune fille. Elle est toute fraîche, elle est belle comme un cœur, elle parle bien, elle est toute jeunette. Elle a encore cette innocence justement, parce que je pense que quand on sort comme ça tout juste, qu'on a encore du lait qui tombe du nez, on se rend même pas compte de l'exploit qu'on vient de faire, ni de la dimension que ça prend par rapport à d'autres. Par contre, ça peut aussi donner une indication sur le niveau du tennis féminin qui, en ce moment, il y a un gros turnover, ça bouge sans arrêt. On a du mal à avoir une certaine stabilité, mais c'est vrai que quand on voit ce genre de petite jeune fille arriver comme ça au palmarès, ça donne de l'espoir. On se dit, bon, bah, on en tient une, on va voir comment ça va éclore, comment ça va se poursuivre, mais en tout cas, c'est un sacré joli talent.
Et peut-être aussi, deux, hein, avec Leïla Fernandez,
la finaliste.
Faut pas l'oublier.
Et on se dit aussi peut-être qu'un jour, sur un malentendu, c'est une Française qui sera à sa place.
Pourquoi tu
nous casses notre bonheur là?
Cet après-midi, c'est une Française qui a gagné les petits As à Tarbes.
Ah bah voilà.
Oui, mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup les petits As, encore, on gagne beaucoup les tournois juniors.
Et Raducanu avait fait les petits As, elle n'avait pas gagné. Donc tu vois.
Comme quoi,
faut pas les gagner, c'est ça que tu veux dire?
Voilà. Merci Eric. Eric Salio, Anthony Resch, merci à vous deux.
Toi, par contre, arrête de nous casser le moral là.
Non, je regarde en avant.
Sinon, tu sors de ton émission.
Mais si je sors, qu'est-ce qui se passe, Maryse?
On est embêté.
Merci. Je vais être entendu dire, ça me fait plaisir. Anthony Resch, Eric Salio, merci les gars. On se retrouve à 22h pour le début de cette finale entre Djokovic et Medvedev. Et jusqu'au bout de la nuit, s'il le faut, 19h23, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse et VonGP. À suivre, je vous rappelle que Tony Yoka sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Formule 1, c'est un duel. Maintenant, c'est plus qu'un duel. C'est parce que c'est la guerre entre Verstappen et Lewis Hamilton. Il s'est passé encore quelque chose d'incroyable aujourd'hui à Monza. On en parle avec Jean-Luc Roy tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Viangrande.
Avec Maryse et VonGP, 19h25 et on continue de débattre de Djoko avec Maryse, voilà.
Eric, c'est terrible, on vient d'en parler pendant 20 minutes et là j'arrivais plus à sortir.
Mais
non,
mais moi c'est énorme.
C'est quand même dingue.
On en parle pendant 20 minutes et à la fin je sais pas s'il faut être content,
si
gagne ou pas.
Si tu l'aimes pas.
On sait pas.
Et oui, mais je comprends.
On est ensemble jusqu'à 20h avec Maryse dans quelques minutes. Tiens, Formule 1, là aussi. Plutôt Hamilton, plutôt Verstappen. En tout cas, il y a deux antagonismes qui sont en train de se créer.
Ça va se finir dans un octogone cette histoire, je pense.
C'est de plus en plus fort. Il y a eu un accrochage exceptionnel aujourd'hui à Monza. On en parle avec Jean-Luc Roy. Mais d'abord, football. C'est la minute foot. C'est nouveau cette année dans le RMC Sport Show. Dans un peu moins d'une heure et demie, le coup d'envoi du dernier match de la 5e journée de Ligue 1, Lyon-Strasbourg. Édouard G est en direct du Groupama Stadium. Salut Édouard.
Salut
Édouard.
En attendant les compos officiels que tu nous donneras, qui tomberont pendant le Sport Show à 19h45, l'enjeu, l'ambiance autour de cette rencontre, Edouard, s'il te plaît.
Eh bien, enfin, gagné pour l'OL après deux matchs nuls ici même devant 32 000 personnes annoncées. Avec une victoire, eh bien, l'OL raccrocherait le bon wagon au classement après sa 17e place après le 3-0 du côté d'Angers à la mi-août. Ce serait un bon coup d'air et d'énergie avant une période là où il va y avoir 7 matchs d'ici le 3 octobre et le derby avec notamment l'entrée en Coupe d'Europe. Et on va aussi scruter les deux recrues phares. Jérôme Boateng qui devrait être sur le banc et sûrement Xherdan Shaqiri, son 1m69 tout en muscle, qui devrait être titulaire et animer un petit peu l'attaque lyonnaise.
Merci beaucoup Edouard, on se retrouve dans 20 minutes, hein, 19h45, dès que tu as les compos tu nous fais signe et on vient te voir. Il en sera question sur Lyon-Strasbourg dès 20h dans l'after. Le match à tout à l'heure, 19h27, c'était un duel, c'est devenu cette année une rivalité, c'est maintenant la guerre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.
Oh, l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux sont à l'arrêt dans le bac à gravier. C'est complètement dingue ce qui se passe à Monza, Jean-Luc.
C'est complètement dingue, effectivement. Les deux pilotes qui sont retrouvés au coude à coude et on voit que la Mercedes est encastrée sous la Red Bull. La tension est extrême, évidemment, entre les deux pilotes. On le savait depuis la sortie, depuis l'accrochage qui s'était produit à Silverstone dans le premier tour, évidemment, où Verstappen avait terminé dans les rails à 250 km/h. Eh bien, voilà encore un incident. On est dans un régime de tension extrême et sans un regard pour Lewis Hamilton, toujours dans le baquet de sa monoplace. Verstappen est en train de s'éloigner des deux monoplaces immobilisées dans le bac à gravier à l'extérieur de cette première chicane, la chicane d'El Retifilo.
C'était en direct sur RMC avec le commentaire de Jean-Luc Roy qui est dans le RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir Thibaut, bonsoir Maryse.
Notre membre de la Dream Team Formule 1.
Salut,
alors,
Jean-Luc.
Jean-Luc, doublé McLaren à Monza cet après-midi. On en reparlera, la victoire de Ricciardo devant Norris. Mais c'est surtout un doublé rendu possible par l'incroyable accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. D'ailleurs, l'image est folle, hein. Vous l'avez sans doute déjà vue, sinon il faut aller la voir. La monoplace du Néerlandais posée sur la Mercedes du Britannique dans le gravier de ce Grand Prix d'Italie. Jean-Luc, c'est... On a l'impression, en voyant l'image en direct, que c'est une image déjà culte de la F1, c'est-à-dire rentrer dans tout de suite dans les livres d'histoire.
Ben oui, c'est clair. Heureusement que ça s'est produit à faible vitesse puisque cette chicane, la variante del Rettifilo, est extrêmement refermée. Elle a été modifiée à plusieurs reprises dans le passé. Maintenant, les pilotes la négocient à des vitesses de l'ordre de 50 km heure. Donc c'est pas très élevé. Mais en revanche, ils parviennent dans cette chicane après un freinage à des vitesses de l'ordre de 340, 345 km heure. C'est bien ce qui s'est produit pour Verstappen qui était lancé à pleine vitesse. Et puis, il avait effectué un ravitaillement qui avait été un changement de pneumatique qui avait été très mauvais. Et au moment où Hamilton, lui, est sorti de la voie des stands, eh bien Hamilton est rentré dans la chicane à l'intérieur avec un différentiel de vitesse extrêmement important. Et les deux hommes se sont retrouvés côte à côte pour négocier.
Alors,
la chicane.
Jean-Luc, pour les non-initiés, les simplement passionnés de sport auto que nous sommes, difficile de voir une faute évidente. C'est pas 100% la faute de l'un ou de l'autre. J'avais prévu de demander à qui la faute, mais en même temps, j'ai l'impression que la FIA a tranché sur ce débat, Jean-Luc.
Absolument. Il y a une dizaine de minutes environ, le collège des commissaires sportifs qui a écouté les deux hommes, et ça a duré un moment, hein, parce que c'est à 17h15 qu'ils étaient convoqués, donc tu vois, ça a duré pratiquement deux heures. Chacun a donné ses explications. On avait déjà eu une bataille verbale entre notamment évidemment les patrons de chaque équipe, Toto Wolff pour Mercedes et Christian Horner pour Red Bull, chacun rejetant évidemment la responsabilité sur le pilote de l'autre équipe. Et puis on a décidé au niveau du collège des commissaires qu'en fait, et d'ailleurs je l'ai sous les yeux, hein, le communiqué est extrêmement, il dit que de manière prédominante, il faut plus blâmer Verstappen qu'Hamilton. Donc on le rend un peu plus coupable. Ça ressemble un petit peu à un jugement de Salomon, et pour tout dire, ça ressemble un peu au jugement qui avait mis le feu aux poudres. C'était donc à Silverstone, puisque je l'ai rappelé, il faut replacer les choses dans le contexte. Lorsqu'Hamilton s'était accroché avec Verstappen, balançant donc Verstappen à très haute vitesse dans le rail à l'extérieur, eh bien la sanction avait été, on va dire, symbolique, puisqu'on avait imposé 10 secondes de pénalité à Hamilton, ce qui ne l'avait évidemment pas empêché de gagner le Grand Prix devant son public. Et à ce moment-là, Verstappen était à l'hôpital en train de subir des examens après l'énorme choc qu'il avait subi. Rien à voir avec celui qu'a subi Hamilton là, hein, c'était beaucoup plus violent. Donc voilà, on va dire que le décor est planté. Moi, j'ai dit tout de suite, ça va être la guerre. Surtout que au Grand Prix d'après en Hongrie, eh ben, cette fois, c'est Bottas avec l'autre Mercedes qui vient faire le ménage et élimine les deux Red Bull d'un coup. On imagine bien que là, on a posé le débat, si tu veux.
Jean-Luc, est-ce que... Alors, je précise que Verstappen, du coup, a été sanctionné de 3 places de pénalité sur la grille de départ du prochain Grand Prix en Russie dans 15 jours. Est-ce que cette rivalité-là entre Verstappen et Hamilton, c'est en train, Jean-Luc, de prendre une nouvelle tournure? Est-ce que ça va finir en Prost-Senna, en Schumacher-Villeneuve?
On préférait aussi que ça finisse pas de façon dramatique,
évidemment,
c'est ça le problème. Parce que quand on voit l'image. Aujourd'hui, on s'en amuse parce qu'il n'y a pas de drame, même s'il y a quand même un passage par l'hôpital. Mais il faudrait voir quand même à rester dans le sport et à ne plus être sur une rivalité qui aille même au-delà du sport et qui leur fasse prendre des risques inconsidérés à l'un et à l'autre, non Jean-Luc?
Tu as parfaitement raison, Marie. C'est un petit peu, effectivement, ce que je crois tous les connaisseurs du sport automobile redoutent, c'est que ce sont quand même des engins, je l'ai dit, extrêmement rapides, hein, quelques secondes à peine, voire quelques dixièmes de seconde avant cet accrochage à basse vitesse, eh bien, Verstappen arrivait à 340 km heure. Ça aurait pu se produire à l'entrée de la chicane. On imagine ce qui se passe dans ces cas-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Red Bull est montée, entre guillemets, sur la Mercedes. C'est que ce sont des monoplaces, donc les roues sont à l'air libre. Elles peuvent s'engrainer, si vous voyez l'image. Et c'est exactement ce qui s'est produit, puisque Verstappen n'avait pas la place de négocier une chicane. Ben, c'est d'abord un droite, là, en l'occurrence, et après un gauche. Et donc, n'avait pas la place de passer dans le gauche, puisqu'évidemment, Hamilton prenait sa trajectoire normale. Donc, il a rebondi sur les vibreurs qui sont assez élevés. Et c'est un but, c'est volontairement. C'est pour éviter que les pilotes coupent par là. Avant, on pouvait couper les chicanes. Maintenant, on ne peut plus. Donc, il s'est retrouvé en l'air. Les deux roues arrière se sont touchées. Et instantanément, la Red Bull à grimper, si tu me permets l'expression, grimper sur la Mercedes.
Alors Jean-Luc, au classement du championnat du monde, ça fait 5 points d'avance désormais pour Verstappen sur Hamilton. Il en reprend 2 parce qu'hier il a terminé deuxième de la course sprint, qui lui a permis de reprendre 2 points. Hamilton n'en a pas marqué. Il reste juste combien de Grands Prix avant la fin de la saison?
6, ah bah écoute là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selon le dernier 7, calendrier, il faut être bien au courant parce que tu sais ça change pratiquement chaque semaine.
Donc
non, c'est pas fini, il en reste 7, donc rien n'est joué, 5 points c'est rien du tout. Effectivement, comme le soulignait Maryse et comme on le pense tous, il faut que cette rivalité sportive, et c'est formidable en plus avec deux pilotes extrêmement talentueux, une légende déjà de la Formule 1 bien sûr, Lewis Hamilton et ses 7 titres, il faut pas que ça tourne au vinaigre, il faut pas que ça se termine mal, effectivement, et c'est ce qui est regrettable.
Une fin de saison passionnante entre les deux pilotes et vous la vivrez sur RMC, vous le savez, tous les week-ends. Le Grand Prix, les essais avec toi, Jean-Luc. Merci, passe une bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix.
Vous aussi, bonne fin d'émission.
À ciao, bientôt. Jean-Luc. 19h33, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse et Vange GP dans une dizaine de minutes. Les compos de Lyon-Strasbourg, votre match de 20h45 en Ligue 1. Tony Yoka sera notre invité exceptionnel. Mais avant ça, dans quelques instants, place au rugby, l'affiche ce soir entre Toulouse et Toulon. Et l'ambiance hier ahurissante à Aimé Giral. Les Catalans étaient visiblement contents de retrouver l'USAP en top 14. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Avec Maryse et Vange GP, excellente soirée à l'écoute d'RMC. C'est votre rendez-vous sport du dimanche soir avec Maryse dans quelques instants. Tony Yoka, invité exceptionnel après sa 11e victoire en 11 combats chez les poids lourds. Mais d'abord, place au rugby.
RMC Sport.
Reportage.
Et avant d'aller à Ernest Vallon dans un instant, le reportage du RMC Sport Show est consacré à la joie des Catalans pour leur retour dans l'élite. Hier, Aimé Giral, c'est tout un peuple qui a fêté la victoire de Perpignan, la première en top 14 cette année contre Biarritz. Le reportage sur place de Julien Landry.
Oui Thibaut, ils étaient 12 189 à avoir pris place à Aimé Giral hier après-midi pour célébrer le retour de Perpignan en top 14, en faisant évidemment le plus de bruit possible. Fumigène, chant, tifo, même un feu d'artifice sauvage avait été organisé avant la rencontre. Il faut dire que l'attente avait été très longue pour les Catalans, 847 jours exactement depuis le dernier match en top 14 à Perpignan. Lors de cette année horrible où les sang et or s'étaient inclinés à 24 reprises et en ce jour de la fête de la Catalogne, l'ambiance a été exceptionnelle. Même Benoît, un historique des Peñas, ne se souvenait pas d'une telle ferveur.
Moi, pour être un supporter qui vient depuis quasiment plus de 20 ans, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça. Vraiment. Grosse ambiance. Vraiment un bon public, une belle journée, du soleil. Au top.
En arrivant à Aimé Giral, on savait bien que quelque chose se tramait. Tout le monde s'était mis sur son 31. Un 31 version rugby en Catalogne. Chaussettes, shorts et t-shirts sang et or. Pas recommandé pour un mariage, mais obligatoire pour la cathédrale d'Aimé Giral, un lieu que connaît par cœur Lucas Vellard, talonneur de Perpignan formé au club et qui d'entrée a été pris au trip.
C'est incroyable, quand on est rentré, la foule qu'il y avait, le monde qu'il y avait, c'est génial, c'est une sensation particulière, je pense encore plus pour ceux qui sont d'ici. Ça fait toujours quelque chose, il faut juste faire attention à ne pas prendre un carton rouge à la première action parce que ça amène un peu trop d'envie.
Et pour le coup, ce sont les Biarros qui ont craqué. Chambrés dès la sortie du bus, Saï et Spice ont pris chacun un carton jaune en première mi-temps pour le plus grand plaisir d'un des publics les plus chauvins de France. Les supporters n'ont jamais lâché la pression. Patrick, ancien joueur devenu supporter, a savouré chaque seconde.
On a retrouvé le public, guichet fermé. Franchement, on s'est régalé du jeu. Notre équipe qui est de nouveau présente, du bon niveau. Et un public de fou, dépiché à gogo.
Et même à la mi-temps, il se passe des choses à Perpignan. Et nous avons eu le droit à une demande en mariage. Et c'est une demoiselle qui en a à l'origine. Le garçon a accepté pour le plaisir des 12 000 supporters qui ont suivi cela sur l'écran géant. Petite pause avant de reprendre la pression. Pas celle qu'on boit, celle qu'on met sur les Biarros. Les supporters n'étaient plus venus au stade depuis octobre 2020. C'était en Pro D2. Un soir où un jeune inconnu, Melvin Jaminet, avait éclaboussé la rencontre de son talent. Un an plus tard, il est devenu un ovni, selon Fabien Galthié. Et il est sorti sous l'ovation du public à la 80e. le capitaine Damien Chouli avait envie de remercier les supporters.
On n'a pas été déçus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, je pense, un stade aussi plein à Aimé Giral. Je ne sais pas combien il y a de spectateurs, mais en tout cas, on les a bien entendus. Ça a bien poussé derrière et je pense que ça nous a fait du bien, notamment à la fin.
La soirée, évidemment, s'est éternisée à Aimé Giral car les supporters, comme Florent, avaient retrouvé leur chez-soi.
C'est fabuleux, ça nous a manqué. C'est notre vie, ça, c'est la maison. Et si on se sauve à la fin de la saison, je te paye une côte de bœuf.
Vous vous doutez bien que vous serez invité aux alentours de mi-juin vers la place du Castillet pour partager ce petit bout de viande avec moi. Un petit bout de viande qui devrait peser pas loin de 2 kilos car on fait tout avec passion et excès en Catalogne.
Magnifique ce reportage.
Exceptionnel. Marie, tu notes, hein, mi-juin.
Ouais, Julien nous invite, petit bout de côtelette, avec grand plaisir.
C'est noté, le reportage
je,
de
je connais
Julien
l'adresse
André
de sa maison, donc je me pointe, je tape à la porte, je dis, il est où le barbecue?
Merci beaucoup, merci à Julien.
Ah, on y
retour
était.
Du reportage du RMC Sport Show. La semaine prochaine, 19h42, le rugby, le top 14, d'un point de vue sportif, ça reprend ce soir avec la fin de la deuxième journée et le match entre Toulouse et Toulon, commenté sur RMC par Wilfried Templier à partir de 21h05. Salut Wilfried.
Salut. Pas de bœuf à l'horizon.
Hein. Non, rien, pas de demande en mariage, pas d'annonce à faire à Madame Templier à la mi-temps, non, tout va bien. 21h05, Wilfried, Toulouse, Toulon, on a le même maillot, mais pas la même passion pour la victoire en ce moment. Hein.
Bah, pas trop, oui, pour les Toulonnais qui ne sont pas qualifiés l'année dernière pour les phases finales, qui ont concédé un match nul contre Montpellier à la première journée, et ils se rendent chez le double champion en titre, le Stade Toulousain, champion de France, champion d'Europe l'an passé, déjà champion de France en 2019, puisque en 2020 il n'y a pas eu de champion avec le Covid, et les Toulousains qui sont repartis de plus belle avec une victoire à La Rochelle la semaine dernière 20-16. Mais où vont-ils s'arrêter, ces Toulousains? On en discutait avec Clément Poitronneau en fin de semaine, l'entraîneur des trois quarts, qui disait qu'ils maintenaient leur niveau de jeu, leurs ambitions pour tout simplement peut-être écrire l'histoire comme ils l'avaient fait dans les années 90, 4 titres de suite de champion de France avec une Coupe d'Europe aussi, et avec cette génération qui prend de l'expérience. Eh bien, les Toulousains ont de l'appétit, reçoivent Toulon ce soir, première à Ernest Vallon, dans un stade à guichet fermé, retour du public aussi ici, très attendu de la part des supporters qui n'ont pas pu trop fêter les doubles champions. Et voilà, un petit détail aussi, c'est les débuts ce soir de la recrue phare du Stade Toulousain. Il s'appelle Anthony Jelonche. On a recruté tout simplement le capitaine du 15 de France cet été en Australie, Anthony Jelonche, et qui est venu de Castres. Alors ça s'est joué entre Toulouse et l'UBB. Anthony Jelonche, il avait le choix, il pouvait rejoindre Christophe Furios, son entraîneur à Castres à l'époque, il a choisi le Stade Toulousain et son copain Antoine Dupont, copain de Auch, colocataire quand les deux jouaient à Castres, qui a joué un très grand rôle pour faire venir Anthony Jelonche, et qui, Anthony Jelonche, s'est très très bien intégré selon Antoine Dupont. Écoutez-le.
Oui, il n'a pas eu besoin de moi pour s'intégrer. Déjà, il connaissait pas mal de mecs, soit de l'équipe de France ou des équipes de France jeunes. Donc, il avait quand même beaucoup de connaissances. Et puis, on a un vestiaire, évidemment, quand on gagne, c'est plus facile, mais qui est très sain et où il y a une très bonne ambiance. Donc, il n'a pas eu de mal à s'adapter. Puis, il a fait aussi l'effort de, pendant ses vacances, il est venu sur des courte période, mais passer du temps avec le groupe. Il est venu faire le repas de recul de début d'année. Il était encore en vacances, donc voilà, il avait aussi cette volonté de s'intégrer, mais il a eu de la chance, il a échappé aux coupes de cheveux au stage, donc on va voir s'il y aura une séance de rattrapage ou pas.
Ouais, parce que la tradition, ouais, c'est de raser les cheveux des recrues, mais personne n'a osé s'attaquer à Anthony Jelonche encore ici au Stade Toulouse.
Tu m'étonnes. Merci beaucoup Wilfried, on te retrouve à partir de 21h05 pour ce Toulouse-Toulon. Il va falloir que tu te battes pour te faire une place, parce que tu auras Lyon-Strasbourg en Ligue 1 côté à partir de 22h, la finale de l'US Open.
Ouais, dis donc, le programme de ce soir, là, il va falloir bien timer tous les écrans. Là.
Ça va être magnifique sur RMC. C'est un gros week-end qui continue jusqu'à 20h, le RMC Sport Show avec Maryse et notre invité dans un instant, Tony Yoka. Lui, c'était vendredi soir qu'il a créé la Q en s'imposant à Roland Garros, mais avec ses gants de boxe, évidemment. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Et Maryse Evangépé jusqu'à 20h viendra ensuite l'after, le match consacré à Lyon-Strasbourg, dernier match de la 5e journée de Ligue 1. Les compos, vous les aurez à ce moment-là, on les a toujours pas. De toute manière, et nous parlons boxe à présent, puisque le sans faute continue. 11e combat et 11e victoire chez les pros pour Tony Yoka, vainqueur du Croate Petar Milas, vendredi soir à Roland-Garros. KO technique à la 7e reprise. Tony Yoka, invité exceptionnel du RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Tony. Merci d'être avec nous et félicitations, parce que je sais pas si tu avais remarqué, mais tu t'es mis en danger. Gagner à Roland-Garros quand on est français, c'est pas évident ces dernières années quand même. Hein.
Oh, c'est vrai que
c'était pas arrivé depuis quelques temps maintenant.
Raconte-nous l'ambiance, justement. Comment c'était combattre devant près de 10 000 personnes sur le cours Philippe Chatrier? C'était comment?
Franchement, l'ambiance, elle était vraiment exceptionnelle. Je sais pas. En fait, tout était réuni. Ça fait un an maintenant qu'on n'avait pas boxé avec du public. On avait été obligé de boxer, d'avoir des réunions à huis clos. Donc, on avait vraiment à cœur de retrouver le public, qui plus est parisien, dans une salle mythique. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de boxe à Roland-Garros. Il y avait l'hommage à M. Belmondo. Il y avait la team solide sur le ring. Franchement, tout était réuni pour avoir une superbe soirée.
On va revenir sur le combat, bien sûr, sur l'hommage à Belmondo. Mais d'abord, sur cette ambiance, est-ce que ça donne envie de plus grand encore à l'avenir? Tu vois, des stades peut-être un peu plus grands, avec encore un peu plus de monde, comme on l'a vu ces dernières années pour d'autres poids lourds.
Forcément, ça donne des idées. Ça fait quelques temps qu'on voulait faire Roland-Garros. Là, on a fait près de 10 000 personnes. On sait qu'on peut encore en faire plus. Je pense que voilà, le public est de plus en plus demandeur de boxe. Donc pourquoi pas, oui.
Alors, il y avait Emmanuel Macron, j'ai vu qu'il était venu te saluer avant ton combat, qu'est-ce qu'il t'a dit?
On s'est vu dans les vestiaires, j'ai été prévenu juste avant qu'il allait venir, il est venu nous saluer, nous encourager avant d'aller boxer. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir quand même un président de la République dans une réunion de boxe. Ça n'a jamais été fait. Ça montre aussi que notre sport, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur en France.
Et on sait, tu t'avais vu passer ces photos, ces vidéos, peut-être qu'il aime bien, le président de la République, jouer à avoir une grosse poigne, tu sais, quand il serre la main des autres présidents. Est-ce qu'il t'a testé ou pas?
Non, parce que déjà, geste barrière oblige, on s'est checké du poing. Donc non, on ne s'est pas serré la main.
Tony Yoka est l'invité exceptionnel du RMC Sport Show ce soir. Tony qui a remporté son 11e combat en 11 combats, 11e victoire en 11 combats tout simplement vendredi soir à Roland-Garros. Alors tu en parlais tout à l'heure et il n'en manquait qu'un finalement vendredi, Jean-Paul Belmondo qui est décédé lundi. Tu lui as rendu un bel hommage, t'en as parlé, mais même après ton combat, t'as exhibé un portrait de lui sur le ring. Quelle relation t'avais avec Jean-Paul Belmondo?
En fait, ça fait. Moi, je l'ai découvert dans les galas de boxe. Je savais pas du tout de base. Moi, c'est pas du tout ma génération, mais je l'ai découvert dans les galas de boxe et ça fait une dizaine d'années maintenant que je le voyais de temps en temps sur ces galas et qu'il venait à mes propres combats, que ce soit à Paris ou en province, il est toujours venu à mes combats de boxe. Donc voilà, on s'est vu aussi en dehors. Il m'a toujours donné des conseils. C'est vraiment un personnage important, en tout cas pour notre sport en France. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais je tenais vraiment à lui rendre un bel hommage.
Ouais, et ça a été fait vendredi. Alors revenons sur ton combat en lui-même, remporté au 7e round. Il t'a gêné quand même, ce croate, en début de combat, hein, Petar Milas. Il était très mobile.
Il était très mobile. Après, moi, je l'avais annoncé. Hein. J'avais annoncé que ça allait être un combat où tactiquement et techniquement, ça allait être compliqué et qu'il allait me poser des problèmes. Il fallait que je sois patient, que je respecte mon game plan. Et au final, j'ai trouvé l'ouverture en deuxième partie de combat.
Quand il te tire la langue, là, au deuxième round, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Franchement, rien. Parce que généralement, ce genre de provocation, c'est quand on a pris un coup. Ouais. Donc on essaye de montrer que
tout va bien,
bah, qu'on n'est pas touché, qu'on a pas mal, etc. Donc non, à ce moment-là, je reste dans mon, je suis difficilement perturbable en combat.
Est-ce que Tony, t'es en train, là, combat après combat, d'installer ton style, c'est-à-dire voilà, Tony Yoka, c'est de la maîtrise, c'est pas forcément le coup d'éclat, d'entrer dans le combat, de sauter sur l'adversaire. Tony Yoka, c'est de la maîtrise, j'attends le bon moment et je place le bon coup au bon moment.
Je construis ma victoire. Mmh. C'est vrai que ces derniers combats, j'ai boxé des adversaires de styles différents, que ce soit Diopa, Hammer, Dzeko et là aujourd'hui Milas. On essaie vraiment de se confronter à tout parce qu'on sait que plus on va monter... plus je serai capable de boxer des grands, des moins grands, des gauchers, des droitiers. Donc je suis vraiment content d'avoir pu trouver la solution et d'avoir surtout... je savais que j'étais en avance au pointage, mais je voulais vraiment trouver cette faille et finir le combat avant la limite.
C'est aussi l'une des consignes ou l'une de tes particularités de ton coach, en tout cas, de Virgil Hunter. Est-ce que c'est lui qui te dit de faire ça?
C'est un coach qui est très, très axé sur la tactique et la technique. Donc on travaille énormément ça à l'entraînement. En fait, avec lui, il faut s'adapter à son adversaire. Il faut toujours s'adapter à son adversaire. Donc il faut avoir la palette technique la plus grande, la plus large possible pour en être capable.
Tony Yoka est l'invité exceptionnel du RMC Sport Show en ce dimanche soir. Merci encore, Tony. Alors, il y a cette victoire vendredi soir. Bon, l'année 2021 est encore longue. Elle n'est pas finie pour toi d'un point de vue pugilistique. C'est quand le prochain combat ?
C'est pas encore fini. On a un autre combat en décembre. On espère la ceinture de champion d'Europe que Mathieu vient de remporter d'ailleurs avant la fin d'année.
Et contre qui alors ?
Ça, je peux pas encore vous l'annoncer. Tant que c'est pas signé, je ne peux pas annoncer le nom.
On a entendu parler un temps ces dernières semaines de Joe Joyce. Ça coince toujours.
Bah, j'étais son challenger officiel justement pour cette couronne européenne, ouais. Et a malheureusement laissé tomber la ceinture pour pas qu'on s'affronte. Donc on est toujours en discussion avec lui. Peut-être ça se fera.
Mais on est d'accord, Tony, ta carrière, tu veux la construire un peu comme tes combats, patiemment, ou est-ce que là, t'aimerais quand même accélérer maintenant, après cette 11e victoire en autant de combats, et avancer un peu sur des adversaires de renom, et peut-être plus près du top 10 ?
Bah complètement, là je viens de monter un petit peu, je suis numéro 15 mondial, donc voilà, j'ai vu avec ma team. Normalement, en prenant cette ceinture européenne, ça va vraiment me faire encore monter dans les classements, et ça va me permettre de pouvoir prétendre à bien mieux en termes d'adversaire.
Et en attendant de le trouver, ce prochain adversaire, ou en tout cas de l'officialiser, c'est quoi le programme des prochains jours, des prochaines semaines, Tony Yoka ?
Voilà, un petit peu de vacances, on profite des enfants pour 2 semaines, et après il va falloir repartir au boulot parce que décembre, ça va arriver vite.
Merci beaucoup, Tony Yoka, d'avoir été sur RMC ce soir dans le RMC Sport Show. Bravo encore.
Merci
pour ta victoire.
Merci pour l'invitation.
Bah, avec grand plaisir, on continue de te suivre, et à très vite. Salut, Tony.
À très bientôt.
Maryse, merci aussi. On se retrouve la semaine prochaine,
prochaine.
Pour la suite des aventures du RMC Sport Show. Dans un instant, l'after arrive autour de Gilbert Bribois. Le match Lyon-Strasbourg, 20h45. Il sera question des compos qui viennent de tomber, notamment la première titularisation de Shaqiri. Excellente soirée sur RMC. Bye bye.
RMC, l'after foot.
Le match. RMC, football.